Attendez de m'avoir entendu tout de même. Bien. J'ai parfois du mal à caser dans l'espace d'une heure et demie tout ce que je veux dire et je ne tiens pas toujours mon programme. Donc là, je termine le cours numéro 4 et je passe au cours numéro 5. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé si je publiais, si j'avais publié un certain nombre de choses qui ont été dites dans ce cours. Donc je vous signale une petite publication parue début novembre. Ça s'appelle « Parlons immigration en 30 questions » à la documentation française pour le prix astronomique de 5 euros et quelques. Il y a en fait 33 questions et non pas 30. Le grand remplacement en est une, par exemple, il n'y a pas que ça. Donc c'est une actualisation des données migratoires sur un certain nombre de thèmes. C'est une réflexion aussi. C'est précédé d'une introduction un peu décousue, dont je ne suis pas très content, parce que l'éditeur m'avait beaucoup pressé. Mais enfin, les 33 questions, elles, sont, je pense, très bien traitées. Ça se lit vite, sans doute en une soirée, même si ça m'a coûté des mois de labeur. Mais ça, c'est une loi normale. Hein. C'est la vie du chercheur qui publie. Donc, je vous avais déjà parlé de ce livre fondateur de Chaim Perelman et Lucie Olbrecht-Titeka, publié à Bruxelles, en France, à Paris d'abord, en 1958, et puis réédité depuis X fois. Vous voyez qu'on en est à la 6e édition, donc c'est vraiment un grand classique, le traité de l'argumentation. Il existe, heureusement, si ça vous intéresse, une version condensée, l'Empire rhétorique, rhétorique et argumentation, qui est en fait un résumé, finalement, du traité de l'argumentation. Et ce traité a été également publié en anglais. Il n'a pas eu beaucoup de succès à l'étranger, parce que la plupart des exemples dont il est nourri sont des exemples à la littérature française classique, au théâtre de Molière, aux pensées de Pascal, etc., à l'Antiquité, et donc c'est assez difficile à transposer quand même en anglais, mais enfin il a été traduit dans les années, à la fin des années 70 en anglais, et il a eu quand même un grand impact auprès des spécialistes du discours, de l'argumentation, de la rhétorique, etc. Il y a dans ce traité de l'argumentation, je vous ai déjà dit à quel point il se situe dans la tradition aristotélicienne, qu'il ravive, hein, il fait une distinction très forte entre la démonstration géométrique mathématique et le fait que dans la vie ordinaire, on ne peut en fait prétendre qu'à accroître le degré d'assentiment des personnes. On accroît le degré de vraisemblance des personnes, on n'est pas dans le vrai absolu. Et cette distinction est très marquée chez Perelman, et je vais en partie la contester, parce qu'évidemment, je suis un homme attaché aussi à l'art de la démonstration. Et tout le problème, c'est ça, comment articuler la démonstration et la persuasion. Est-ce que la démonstration n'est peut-être pas persuasive en elle-même, enfin, elle doit jouer un rôle quand même dans le travail de persuasion, surtout quand on a affaire à un thème comme l'immigration, où vous êtes dans une arène où toutes sortes de gens manipulent les chiffres, prétendent faire des démonstrations, apportent des démonstrations. Donc il faut réfuter parfois des pseudo-démonstrations, il faut en tout cas étayer sur ces affirmations. Il faut faire en sorte que la tentative pour essayer de modifier la perception d'autrui, ce ressort premier de l'action sociale, c'est essayer d'agir sur autrui, eh bien, puisse tabler sur un certain nombre de garanties, de supports, et c'est ce que Stephen Toulmin, avait écrit la même année que Perelman. Il avait lui aussi écrit un livre sur l'argumentation, qui reposait un peu aussi sur cette idée qu'il y a une logique naturelle, une logique pratique, qui a parfois du mal à mobiliser la logique tout court, mais il faut bien travailler sur cette articulation. Alors, plusieurs colloques se sont réunis pour essayer de dresser, quelques décennies plus tard, le bilan de l'apport de Perelman et de sa collaboratrice. Et une des choses qu'on voit apparaître dans ces divers colloques, c'est que finalement, sa typologie des arguments, la typologie des argumentaires, hein, on a parlé l'autre jour du livre de Hirschman avec ses différents types d'arguments, jeopardy, futility, l'effet pervers, etc. Perelman utilise un peu ces arguments, mais enfin, il se méfie tellement de la rhétorique classique, de la rhétorique littéraire, des fleurs de rhétorique qui avaient foisonné avant lui, qu'il finalement se lance dans une typologie de l'argumentation qui a paru un peu étrange, qui n'a pas été tellement reprise, mais qui, moi, finalement, m'a intéressé. Et la summa divisio, la grande bifurcation au sommet de son arborescence, c'est la distinction entre deux types d'arguments qui portent, l'expression est un peu étrange, sur la structure du réel, les arguments de liaison qui lient des éléments différents du réel, et les arguments de dissociation qui essaient de montrer que deux choses que l'on peut confondre sont indûment confondues, elles n'ont rien à voir d'une certaine manière. Donc je vous ai mis en dessous des formules familières qui d'une certaine manière redisent la même chose un peu autrement. Dans les arguments de liaison, ben, tout se tient, n'est-ce pas ? Omnia conspirans, comme disait Leibniz, tout conspire. Et puis dans les arguments de dissociation, on explique que deux choses qui ont l'air d'être identiques, en réalité, n'ont rien à voir, ou qu'une même notion doit absolument se dédoubler. Nous allons voir ça. Alors, les différents types d'arguments établissant des liaisons, ben, il y a d'abord de simples comparaisons sous un rapport précis, qui peut être le nombre, la force, l'influence, etc., tout ce que je mentionne ici, mais aussi le vrai, le beau, le bien, etc. Il y a toute la question de l'amalgame ou de la réduction. A est rabattu sur B. Il y a l'analogie, qui est quelque chose de différent, qui est A est à B, ce que C est à D. Vous savez que dans l'œuvre de Lévi-Strauss, par exemple, l'analogie joue un rôle absolument central, puisque toute la mythologie, notamment, met en scène des analogies entre le monde naturel et le monde humain. Et je vous renvoie évidemment au cours d'Escola qui a exploré tout ça à l'échelle de la planète d'une façon absolument extraordinaire. Et puis, il y a les métaphores qui, au fond, consistent à mettre en relation deux choses. Alors, Aristote, dans la rhétorique, parle beaucoup de la métaphore. Il dit que pour qu'une métaphore fonctionne, il faut que les deux éléments mis en rapport, alors on appelle ça le thème et le fort, métaphore en grec, ça veut dire transport. Aujourd'hui encore, en grec moderne, vous voyez sur un camion « metaphora kriaton », transport de viande. Les Grecs n'ont pas de mots différents pour dire transport et métaphore. Ils utilisent le même mot, qui nous paraît un peu difficile à nous. Mais voilà. Donc la métaphore, c'est un déplacement. Et c'est le fait de se déplacer d'une réalité qu'on essaie d'expliquer, qu'on essaie de... Voilà, le thème... vers ce qu'on appelle le fort, P-H-O-R-E, qui va être donc un univers de référence davantage connu. Au fond, on ramène l'inconnu au connu. Alors, dans la question migratoire, bien sûr, on a l'Europe forteresse, l'Europe passoire, on a le tsunami, etc. Enfin, on déborde de métaphores, et j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Déjà, une séance de notre séminaire a été consacrée aux métaphores aquatiques appliquées à l'immigration. Et puis, il y a des métaphores, je dirais, alors là, une réflexion un peu plus personnelle, des métaphores qui sont systématiques, qui sont envahissantes, qui, j'ai enlevé d'appeler ça des mégaphores. Voilà, la guerre, la gravitation naturelle, le marché, le religieux, le théâtre, tout ça, ce sont de très grandes métaphores qui sont utilisées dans des quantités de domaines et qui ont une visée explicative. La question est de savoir, est-ce que cette visée explicative a une valeur purement rhétorique ou est-ce qu'on peut lui accorder aussi une valeur scientifique ? Et c'est ce que je vais aborder. Et puis, il y a, sur un autre registre, mais au fond, c'est bien une façon d'établir des liaisons, il y a tout un travail d'analyse des textes, d'analyse des données textuelles, qui aboutit à créer des outils statistiques de rapprochement, d'objectivation du système de proximité, de distance entre les figures et entre les discours. Et ça aboutit aujourd'hui, dans des essais tout récents, dont je vous parlerai un peu, à comparer des corpus par l'intelligence artificielle, par des systèmes de neurones artificiels. On va identifier les passages typiques d'un texte, on va regarder si ces passages se retrouvent dans d'autres discours, on va pouvoir, c'est un peu du multiniveau si vous voulez, en remontant les niveaux, en élargissant les fenêtres d'observation à l'intérieur des textes, on va pouvoir regarder quel est le degré d'originalité d'un texte, quel est le pourcentage des thématiques des discours d'Emmanuel Macron qui sont empruntés à De Gaulle, à Giscard, à Pompidou, etc. Je fais référence à un livre récent qui a analysé tout ça. Et l'auteur, un des deux auteurs en tout cas, donc Damon Mayafre, fait partie des invités au séminaire. Ce sera intéressant de le suivre là-dessus. Donc, voilà un peu le plan du cours d'aujourd'hui. Alors, la dissociation, selon Perelman, ça consiste, et je renvoie à un livre d'Agnès Van Rees qui est entièrement consacré à ce sujet, qui a été publié à Dordrecht, chez Springer, dédoubler les notions. Ça consiste à dédoubler les notions ou à séparer radicalement des notions qu'on pourrait croire proches pour échapper à la contradiction, essentiellement. Et donc, c'est un peu l'art du distinguo que les... qu'au Moyen-Âge, on savait pratiquer. On pratiquait avec beaucoup de subtilité l'art du distinguo dans les discussions des logiciens au Moyen-Âge. Donc, ça consiste à dire, attention, il y a une réalité qui est authentique, il faut se méfier des apparences, et on va dédoubler des notions en disant qu'il y a une version nouvelle versus une version dépassée, ouverte versus fermée, etc., etc. Et vous avez toujours une hiérarchie entre ces deux éléments, il y en a toujours un qui est supérieur à l'autre. La laïcité est un exemple absolument typique. Les deux courants laïciens ou laïcistes enfin, qui se sont battus et qui continuent de se battre aujourd'hui, celui qui était représenté par l'Observatoire de la laïcité présidé par Jean-Louis Bianco et animé par Nicolas Cadenne, qui a été terrassé, tout simplement, par les partisans d'une laïcité de combat, eh bien, quand vous lisez les écrits de chacun de ces deux courants, chacun dit la laïcité tout court, la laïcité un point sur tout, il ne faut surtout pas mettre d'adjectifs ou de compléments à cette laïcité, nous ne voulons rien que la laïcité. Mais le camp adverse fait exactement la même chose, et en réalité, quand on regarde ce qui se passe, eh bien, il y a la laïcité de combat versus la laïcité ouverte, ou inclusive versus exclusive, et on se jette ainsi mutuellement des accusations qui sont, dans le point de vue rhétorique en tout cas, consistent essentiellement à dire mais il y a la vraie laïcité à opposer à la fausse laïcité, etc. Et chacun est convaincu, évidemment, de détenir la vérité sur ce que doit être la laïcité. Bon, mon point de vue, c'est que, oui, il y a plusieurs versions, interprétations possibles de la laïcité. Il est normal d'en faire un sujet de débat, et ceux dont il faut se méfier sont des gens qui prétendent que le débat est clos, et que tout ça est très simple, et qu'il n'y a qu'à lire les textes ou relire la loi de 1905 sur ce sujet-là. Je m'excuse de vous renvoyer sans cesse à des lectures que vous n'aurez peut-être jamais le temps de faire, mais enfin, il y a Jean Bobéro est en train de publier en 3 tomes une histoire incroyablement détaillée et en même temps vivante, très extrêmement bien écrite, l'histoire de la loi de 1905. C'est 3 tomes de 800 pages ou 1000 pages chacun. Et le premier tome, c'est la préparation de la loi de 1905. Le deuxième tome, c'est la loi de 1905 elle-même. Le troisième, c'est l'après-1905, puisqu'il y a une série de lois ensuite qui sont venues compléter dans les années suivantes la loi de 1905. Mais c'est passionnant parce qu'il met sans cesse en scène des polémiques, des combats, des débats. Il montre que Jaurès, par exemple, a joué pratiquement aucun rôle dans la loi sur la laïcité, contrairement au documentaire où son rôle était incarné par Jean-Claude Drouot. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Enfin bref, il y a plein de choses inattendues là-dessus. En tout cas, oui, forcément, la laïcité était très débattue à l'époque de la loi de 1905. C'est de justesse qu'un certain nombre de décisions ont été prises. Il faut... C'est toujours intéressant de revenir sur les débats du passé pour essayer de comprendre les enjeux. Bien sûr, il y a l'opposition entre patriotisme et nationalisme, des notions qui pourraient se confondre et que beaucoup d'acteurs publics tentent de différencier. Et on en arrive évidemment aux discussions sur ce que c'est que le vrai migrant, le bon migrant, le migrant tel qu'il devrait être. Et ça varie au cours du temps. Il y a une période où on a beaucoup valorisé le migrant économique qui nous était utile. Et puis aujourd'hui, le migrant économique, c'est plutôt celui qui vient profiter de nos ressources. Il y a une époque où on se méfiait du réfugié politique. Mais aujourd'hui, si c'est un réfugié politique authentique qui fuit réellement la persécution, on l'oppose au demandeur d'asile qui, lui, est toujours soupçonné de détourner la procédure. Et déjà, Guizot, dans les années 1830, fustigeait le demandeur d'asile qui venait en France attiré par l'appât du gain dans l'espoir de quelques subsides. Donc le débat est vieux, mais en même temps, on voit bien qu'entre les différentes... Et puis bien sûr, la migration familiale a pu être célébrée à un certain moment. Alfred Sauvy disait qu'il fallait de l'immigration familiale pour que la migration fasse souche et complète la démographie défaillante de la France. Et puis, d'autres moments où l'immigration familiale, c'est l'appel d'air qui vient alimenter la migration de peuplement et changer le monde que nous avions connu autrefois, que nous sommes supposés avoir connu autrefois. Bon, il y a un distinguo fameux dans l'histoire qui a été... l'expression vient de Barès, de Maurras. Distinguer les Français de souche des Français de papier. Ça, c'est la réaction notamment à la loi de 1927, la grande loi de naturalisation de 1927, la plus libérale qu'on ait connue en matière de naturalisation, et qui a aussitôt déclenché cette idée, mais on est en train de fabriquer des Français de papier, alors que le véritable Français, c'est le Français enraciné, dans 1000 ans d'histoire, c'est le Français de souche. Donc voilà encore, typiquement, un argument de dissociation qui peut très bien illustrer le propos de Perelman. Perelman insiste sur le fait que chez les philosophes, les plus grands philosophes, on passe son temps à distinguer les notions. La philosophie, je crois que c'est un professeur de Kant que j'avais autrefois, mais il me disait toujours, la philosophie parle toujours d'autre chose. Vous croyez qu'elle va parler de ceci, de cela, mais en réalité, il y a toujours des arrière-concepts et des arrières, et voilà, les concepts sont toujours à double fond. Et là, je ne reprends pas les exemples de Perelman, j'ajoute des exemples que j'avais eu l'occasion d'explorer autrefois, mais les Allemands sont très forts pour ça, parce qu'ils ont une langue double, ils ont une langue avec des concepts d'origine germanique et des concepts empruntés au latin, voire directement au français, et c'est extraordinairement compliqué, évidemment, ça fait les délices et les tourments des traducteurs de pouvoir rendre compte de l'opposition entre Historie et Geschichte, entre Civilisation et Kultur, ça c'est un grand classique, entre Réalité et Wirklichkeit, Moralité et Sittlichkeit, Objekt et Gegenstand. Vous voyez, je ne vous traduis pas, parce que vous comprenez évidemment naturellement les termes qui sont à gauche, Rational et Vernünftig, Habituel et Gewöhnlich, ça c'est Husserl, qui a toute une théorie de l'habitus. Habitude et habitus, ben ça c'est Bourdieu. L'habitus a à voir avec l'habitude, mais c'est quand même pas l'habitude. Bon, c'est moins mécanique, c'est plus créatif, c'est bon. Enfin, j'ai écrit tout un article là-dessus. Je pense aussi à Derrida qui diffère la différence de la différence. La différence est le geste qui consiste à finalement toujours introduire une différence et ne jamais se contenter de du triomphe du terme dominant sur le terme dominé, etc., etc. Donc vous voyez, le procédé est très ancien et il est très utilisé par les plus grands auteurs. Chez Kant ou Hegel, ça varie. En général, le terme latin chez Hegel est dévalorisé et c'est le terme germanique qui domine. Bon. On a un exemple extraordinaire de dissociation, c'est la fameuse tribune de Régis Debray qui avait été publiée en 89, qui a été augmentée à plusieurs reprises, il y a des versions de 95, de 97, c'est très souvent cité, c'est un texte qui a été extrêmement influent. 89, c'est pas n'importe quel moment, c'est juste après l'affaire du foulard de Creil, où là, pour la première fois, on a un auteur brillant, la plume agile, on n'est pas normalien pour rien, et qui finalement écrit un article pour expliquer que la République française, c'est quand même autre chose que la démocratie, sous-entendu anglo-saxonne, américaine, etc. Et vous avez un peu tous les lieux communs anti-américains, finalement, qui sont développés par une superposition. Alors, il y en a une soixantaine dans le texte, là, je ne vous en offre qu'une quarantaine, de dualisme, de dichotomie. Et ça va très loin. En démocratie, on éteint les lumières, dit-il à un moment, ce qui est quand même un propos fort, parce que la République, en principe, n'est qu'une variante de la démocratie. Bon, donc, mais en France, nous avons la liberté plus la raison, alors qu'aux États-Unis, ils n'ont que la liberté, donc sous-entendu sans la raison. Chez nous, le maître mot, c'est l'institution. Là-bas, c'est la communication, etc., etc. Donc, vous voyez, cette... exercice rhétorique absolument extraordinaire où tous ces dualismes superposés évidemment tendent à se renforcer les uns les autres. Alors dans la première version, je n'ai pas réussi à vérifier parce qu'elle n'est plus accessible sur Internet, il terminait en disant que la République était virile ou mâle et que la démocratie était femme. Enfin bon, c'était... Mais ça a disparu dans les... Oui, parce que c'est ce que Bourdieu avait écrit un article très intéressant sur les dualismes comme ça chez Montesquieu, hein, la théorie du climat chez Montesquieu, le chaud, le froid, le sec, l'humide, le viril, le féminin, etc. Tout ça, ça se superpose très aisément et c'est ce qui alimente l'anthropologie structuraliste. Hein, tous les, voilà. Donc Montesquieu, par exemple, était absolument convaincu que plus on descendait dans les pays chauds, plus il naissait de garçons et de filles. Et plus on allait dans les pays froids, plus il naissait de garçons. Et c'est comme ça qu'il expliquait la polygamie des pays du Sud. Il y avait, à l'équateur, 10 fois plus de naissances féminines que de naissances masculines, sans quoi la polygamie n'était pas pensable. Et c'est dans l'esprit des lois, qui est quand même un très grand ouvrage, par ailleurs. Donc, oui, il y a cette tendance comme ça à œuvrer, à fonctionner dans une pensée binaire, mais là, c'est une pensée binaire qui repose sur la dissociation. Vous pensiez naïvement que la République et la démocratie étaient des notions connexes, étaient des notions proches, et voilà qu'on les explique qu'en réalité, elles n'ont rien à voir et que c'est le jour et la nuit, et que, évidemment, nous devons choisir l'une au détriment de l'autre, ce qui est évidemment très problématique. Enfin, ce texte a contribué à dévaloriser la notion de démocratie par rapport à la notion de République, alors qu'on pourrait très bien imaginer qu'on puisse valoriser les deux simultanément, hein, en pensant que la version américaine n'est qu'une version parmi d'autres. Voilà, mais vous pouvez parcourir tout ça, c'est assez étonnant. Alors, évidemment, le domaine où les arguments de dissociation et de compression s'appliquent, et j'avais eu l'occasion déjà d'en parler il y a quelques années, c'est la question de l'islam. Puisque la dissociation, l'argument de la dissociation consiste à dire mais l'islam et l'islamisme sont deux choses très différentes. Je rappelle qu'au XIXe siècle, on disait l'islamisme pour désigner la religion islamique. Parce qu'on disait catholicisme, protestantisme, judaïsme, il y avait un « isme » à la fin de chacune de ces expressions, et donc « islamisme » était une expression totalement symétrique, hein, ça correspondait à un paradigme linguistique. « Islamisme », chez Renan, par exemple, « islamisme » signifie « la religion islamique ». Donc, quand est-ce qu'il y a eu cette distinction entre islam et islamisme? Je n'ai pas trouvé de texte qui documente correctement cette dissociation. Mais cette dissociation, elle ne va pas de soi. Il ne va pas de soi de considérer que l'islamisme, ce n'est plus la religion islamique, mais c'est une variante intégriste, violente, fondamentaliste, etc., etc., de la religion. Il y a donc, dans la version dissociative, hein, de l'approche de l'islam, eh bien, toute une série de distinguos qui sont faits, la distinction entre le djihad spirituel et le djihad guerrier, que les spécialistes du sujet contestent. Enfin, c'est une dissociation qui est relativement récente dans l'islam et qu'on ne trouve pas vraiment à l'origine. Enfin, sur toutes ces questions-là, il faudrait avoir des connaissances, comme je le dis au bas de la diapo, des connaissances historiques, linguistiques, socio-religieuses, ce n'est pas facile. Hein, et donc, jeter tout ça dans le débat public, c'est quand même évidemment compliqué quand on n'a pas les bases documentaires pour pouvoir trancher des questions aussi complexes. Bon, on va expliquer que la religion, c'est différent du sectarisme, qu'il y a un islam authentique, un islam dévoyé, etc. Quand vous parlez, ça m'arrive de temps en temps, à des responsables musulmans qui luttent contre les mouvements djihadistes, et évidemment, ils tiennent des discours de dissociation qui sont très forts. Ça n'a rien à voir. Nous n'avons rien à voir avec les valeurs dont se réclament, ou même les textes dont se réclament ces gens-là. Il y a eu toute la question du salafisme. Quand j'étais aux Pays-Bas en 2011, j'étais très frappé du fait que les chercheurs néerlandais avaient beaucoup travaillé sur la question du salafisme, beaucoup travaillé sur la question des jeunes qui allaient faire le djihad en Syrie. En France, le thème n'existait pas encore. Donc il y avait 1 ou 2 ans d'avance des Néerlandais sur cette question-là. Et il y avait vraiment 2 écoles. Il y avait ceux qui disaient mais le salafisme, c'est une espèce de quiétisme qui finalement pacifie, enfin retient les jeunes d'entrer dans la violence. Et puis d'autres disaient non, il y a une branche terroriste du salafisme et on ne peut pas, on est naïf si on pense qu'il n'y a qu'un seul salafisme. Donc vous voyez, il faut distinguer à l'intérieur des salafismes. Tous ces arguments, ce sont des arguments donc de dissociation qui évidemment. Alors, compliqué, parce qu'il faudrait comparer ça avec également d'autres religions. Vous avez un très grand nombre de mouvements religieux, évidemment, que ce soit au sein du judaïsme, du christianisme, etc., où vous avez un certain nombre de ces confusions, de ces dissociations qui sont faites. Donc la dissociation consiste à lutter contre l'amalgame, hein, qui est le grand argument utilisé. Et du coup, et ça je l'avais présenté, je reprends une diapositive que j'avais présentée lorsque j'avais parlé d'Olivier Roy, de François Burga et de Gilles Kepel, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ce cours, et on voyait comment, notamment dans l'argumentation de François Burga, il y avait l'idée que ce qu'on impute à l'islam, c'est en fait simplement un habillage religieux, car en réalité tout ça est politique, et que ces mouvements de révolte ou ces mouvements terroristes empruntent un langage religieux sans que le ressort de leur action soit proprement religieux. C'est donc un usage politique de la religion. Ben, d'autres disent non, c'est vraiment la thèse de Kepel, c'est que c'est vraiment le développement d'arguments religieux et on peut suivre la trace des textes qui vont de tel et tel imam à tel et tel terroriste. Il y a des filiations précises, il y a aussi des circuits de financement, etc., qui sont précis et qui viennent de certains États du Golfe, etc. Donc vous voyez, deux types d'argumentation complètement opposés. Et dans l'argument de dissociation, ce qui est frappant, c'est l'idée qu'il y a des sphères, la sphère politique, la sphère sociale, la sphère religieuse, mais ces sphères se touchent à peine. Elles sont assez séparées, elles communiquent juste par la tangente. Et donc, il y a des entrepreneurs de radicalisation qui détournent les frustrations sociales des minorités discriminées, la géopolitique instrumentalise la religion, etc. Mais il n'y a pas de communication directe entre les sphères. Et on connaît tout le problème de la question de savoir si c'est l'islam qui s'est radicalisé ou si c'est la radicalisation qui s'est islamisée. Thèse de Kepel d'un côté, d'Olivier Roy de l'autre. Voilà. À ce stade-là, je ne prends pas parti parce que c'est quand même. Je voudrais simplement que vous puissiez identifier assez clairement la logique de ces arguments. Là, on est dans la dissociation. Et puis, le mot qui, pour les adversaires d'ailleurs, va résumer cette posture, c'est la dénonciation de l'amalgame. Amalgame est un mot qui sonne évidemment très bien. Et Perelman parle de l'amalgame comme argument de liaison du réel. Mais la riposte des adeptes de l'amalgame, de ceux qui le pratiquent, et on va voir comment c'est fait, consiste à dénoncer la dénonciation de l'amalgame comme un procédé, à dire il y a une dénonciation rituelle de l'amalgame, à figer ceci, et ça va donner le hashtag pas d'amalgame, qui est très répandu dans la sphère Internet. Certains tournent ça en dérision en dessinant un médicament, c'est pas l'islam, etc. Donc, quand vous avez un procédé rhétorique utilisé par l'adversaire, vous pouvez dire « c'est un procédé rhétorique ». Vous pouvez objectiver le procédé de l'autre, dire que c'est rituel. Alors là, l'allusion à la religion, la métaphore religieuse, c'est rituel. Taguieff utilise ça aussi beaucoup. Les arguments de mes adversaires sont des litanies, par exemple. Il aime bien ce mot-là. Donc, une façon de tourner en dérision l'argument de l'adversaire, c'est d'utiliser un langage religieux pour dire que c'est rituel, c'est mécanique, donc il s'agit simplement d'une croyance, et donc, évidemment, ça diminue la composante de la raison qu'il pourrait y avoir dans un tel argument. Alors c'est très puissant, ça, hein, de dénoncer le procédé d'autrui par des tournures de ce genre. Je vous cite un hashtag parmi bien d'autres. « Et c'est reparti pour un tour. Les laudateurs du pas d'amalgame nous rejouent leur petite musique. Elles commencent à nous lasser. » Donc, vous voyez, ce genre donc la mécanisation, en quelque sorte, la déshumanisation, la dérationalisation des procédés rhétoriques chez l'autre, parce qu'on est très lucide sur les procédés rhétoriques utilisés par autrui, mais beaucoup moins évidemment sur les procédés qu'on utilise soi-même. Et c'est le problème de la lucidité croisée. Là j'anticipe sur une diapositive suivante, mais enfin, il y a des gens qui dénoncent les amalgames avec Hitler, avec le nazisme, etc., mais qui, par ailleurs, peuvent très bien dénoncer les collabos du djihadisme en mettant un cas à collabo. Donc, quand vous lisez toute cette littérature polémique, héristique, enfin très, très violente, vous apercevez que constamment, les gens reprochent à leurs adversaires des procédés que, finalement, sans trop s'en rendre compte, ils utilisent eux-mêmes. Alors, nous allons voir l'argument opposé, donc, qui est la compression, qui est l'amalgame, qui est l'idée que tout ça se tient. Et Geert Wilders, le président du Parti de la Liberté, qui est un peu concurrencé maintenant, le grand parti d'extrême droite aux Pays-Bas, avait déjà, dans les années, à la fin des années 2000, aux alentours de 2008-2009, il avait un leitmotiv, il n'y a pas d'islam modéré. Vous retrouvez la même chose chez Zemmour. Il n'y a pas de distinction à faire entre un islam modéré et un islam violent ou extrémiste. En réalité, l'islam, c'est un bloc, et il y a un continuum entre les deux formes d'islam. Il n'y a pas d'islam modéré. L'islam n'est pas une religion, mais c'est une idéologie politique. Alors, Wilders a beaucoup insisté là-dessus, et de très nombreux auteurs ont repris cette formule. D'ailleurs, assez intéressant de voir qu'un certain nombre d'intellectuels néerlandais ont beaucoup fréquenté les milieux parisiens, l'inverse est moins vrai, et il y a des circulations d'arguments tout à fait clairs entre les deux pays. Wilders, notamment, est connu aussi pour avoir, à plusieurs reprises, considérer que le Coran était un livre aussi dangereux que Mein Kampf, et de même que Mein Kampf est interdit aux Pays-Bas, il faudrait interdire le Coran. C'est un amalgame qui est évidemment assez... il y a eu un procès contre lui, mais au nom de la liberté d'expression, il a été relaxé. En France, je ne sais pas ce que ça donnerait, un tel procès, assimiler le Coran à Mein Kampf. Mais Wilders l'a fait ouvertement et de façon systématique et enfoncer le clou, en quelque sorte. Bon, alors il y a les historiens ou les philosophes qui se piquent d'histoire. Les origines de l'islam, c'est une affaire assez compliquée. On aura l'occasion d'en parler l'année prochaine, puisque je vais consacrer mon cours au lien entre migration et religion. Donc on va essayer d'explorer un petit peu aussi, finalement, un peu ambitieux, mais ce que c'est que la religion, comment ça fonctionne, notamment la question très controversée des origines de l'islam, puisqu'il se déroule à peu près 80 ans entre la mort de Mahomet et les récits qui commencent à se cristalliser sur Mahomet et sur son message. Donc, un certain nombre de gens expliquent que l'islam, finalement, est une religion guerrière dès le départ, qu'elle a toujours été, qu'elle contient la violence dans l'œuf, en quelque sorte, et que par conséquent, l'islam d'aujourd'hui, c'est encore l'islam naissant, c'est la même chose, il y a une continuité totale, c'est toujours la liaison établie entre les deux. Et du coup, tout ceci est transposé dans l'individu, à partir du moment où il y a des intentions, un profil, ça vous est conduit à l'acte presque automatiquement. Et évidemment, c'est un argument qui est très puissant, parce qu'il repose sur la peur. Il faut se méfier, évidemment, de ce qui est d'une menace qui existe dans l'œuf. Et donc, la vision, c'est celle de Cassandre, qui, évidemment, chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, considère que sa prophétie est confirmée. Et tout ça est très déterministe. Je suis assez frappé, en lisant certains textes, de voir à quel point, d'une certaine manière, il y a une espèce de fatalisme qu'on a l'habitude d'attribuer à l'islam. C'est assez curieux. C'est écrit, c'était écrit. Il suffit de lire le Coran et vous comprenez les attentats d'aujourd'hui. Il y a un côté fataliste. Il y a une analogie avec les lectures fondamentalistes des textes sacrés. On prend les textes à la lettre et on ramène tout aux origines. Et alors le problème, c'est que si on faisait la même chose avec le judaïsme, avec certains textes quand même très violents des évangiles, qui ne sont pas beaucoup lus, mais enfin, il y a quand même les paroles du Christ assez étonnantes. Hein. J'avais faim et vous m'avez nourri, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Ça, c'est la première partie du discours du Christ. Mais la deuxième partie, c'est et ceux qui ne m'ont pas donné faim, on les jette aux flammes de l'enfer, et ceux qui ne m'ont pas donné à boire, etc. Et donc, on voue aux flammes de l'enfer ceux qui n'ont pas fait ça. Et là, on se dit, c'est bizarre, c'est un discours de charité absolument extraordinaire. Toute la première partie du discours est admirable, le Christ comme opérateur universel, tout ce qu'on a pu faire à l'un de ceux-ci, parce que les civilismes, enfin, on ne vous a jamais donné à boire, on ne vous a pas... Oui, mais chaque fois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est comme si vous l'aviez fait à moi. Donc c'est le Christ comme opérateur universel, n'est-ce pas, de la charité. Le problème, c'est que ce texte, qui est un des plus beaux textes du christianisme, il est aussitôt suivi d'un texte parallèle qui consiste à vouer aux flammes de l'enfer ceux qui ne sont pas, qui ne pratiquent pas la charité. Alors souvent, la deuxième partie du texte n'est pas lue. Hein. Voilà. Mais allez voir l'original, c'est assez. Donc l'Église a été capable de filtrer, de sélectionner les textes les plus charitables, l'amour du prochain, etc., et d'écarter quand même ou de minimiser les textes les plus violents. Il y a aussi les textes où le Christ dit celui qui ne fait pas ceci, qui fait là, il vaut mieux qu'il se coupe la main. Enfin bon, il y a des choses comme ça très 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 étranges. Et là, je vous renvoie au cours de Thomas Romer, hein, ou au livre de Thomas Romer, qui a beaucoup parlé de la question de la violence dans les religions. Vous lisez Maïmonide, grand théologien du XIIe siècle. Maïmonide dissert longuement sur la question de savoir si, quand on a commis tel ou tel crime, l'adultère, etc., est-ce qu'il faut lapider, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut tuer par un autre moyen, etc. On ne sait pas ce que ça veut dire exactement, ça n'a jamais été pratiqué, mais à cause de cette question proprement, ce fait historique, un peu contingent, c'est que le judaïsme, sauf de très rares époques, comme l'époque asmonéenne, n'a pas eu le pouvoir, n'a pas pu exercer le pouvoir dans des territoires, etc., comme l'islam a pu le faire. Et donc, effectivement, la mise en pratique d'un code pénal extrêmement violent avec des châtiments physiques, etc., qui existait également dans le judaïsme, n'a jamais pu être mise en pratique, et les spécialistes du sujet se demandent toujours à quelle époque exactement le judaïsme a finalement renoncé à l'idée même de ces châtiments et pas seulement leur mise en pratique, que de toute façon ils ne pouvaient pas faire. Vous voyez à quel point la relation entre violence et religion est quand même, dès qu'on commence à faire un tout petit peu de comparatisme et un peu d'histoire, devient très compliquée, et la désinvolture, la rapidité avec laquelle dans le débat public on agite toutes ces idées-là, on fait tous ces amalgames, est évidemment assez consternante, parce qu'il faudrait en réalité travailler la chose, et c'est aux fidèles de chaque religion de faire le tri. On a un peu tourné en dérision le fait que l'Église ne citait qu'une partie des propos du Christ, mais d'une certaine manière, chaque religion fait sa sélection, et ça, c'est une question intéressante. Bon, mais nous aimons bien identifier l'autre au mal absolu, et là, il y a un jeu, un mécanisme que Léo Strauss, donc ce philosophe américain qui est décédé dans les années 70, je crois, et qui a été le premier à désigner, il utilisait l'expression latine par dérision, reductio ad Hitlerum, ça consiste à ramener l'adversaire d'une façon ou d'une autre au mal absolu, à Hitler. Et c'est ce qu'un juriste de Yale a formulé en 90, c'est la fameuse loi de Godwin, dont l'énoncé est le suivant: plus une discussion en ligne s'allonge, plus la probabilité d'une comparaison avec Hitler ou le nazisme s'approche de 1, c'est-à-dire de 100%. Alors on pourrait dire qu'il faudrait encore allonger la loi de Godwin, et il y a toute une série d'autres expressions qui veulent dire à peu près la même chose, la comparaison avec les années 30, les années 40, les années sombres de notre histoire, qui est devenue une locution figée, l'occupation, la collaboration, la Gestapo, les SS, les rafles, la Shoah, etc. Donc, en France, on parle de la loi de Godwin. Dans les pays anglo-saxons, on parle du point Godwin, du moment où on bascule dans l'amalgame qui arrive, finit toujours par arriver à un certain moment dans une discussion en ligne. Bon. Et on va en voir des exemples. Alors, un exemple bien connu, c'était Marine Le Pen assimilant les prières de rue à l'occupation. Il y a eu un procès là-dessus. Et elle a dit « Non, non, je pensais occupation avec un petit O ». Et pas avec un grand tour. Eh bien, le tribunal, ne sachant pas trop quoi penser de cet argument, l'a relaxé. Donc, vous voyez à quel point majuscule, minuscule, ça compte. Hein, expliquez ça à vos enfants, hein, que l'occupation et l'occupation, ce n'est pas la même chose selon qu'on met. Voilà. Alors, Yvan Rioufol, qui a de longue date un éditorial dans le Figaro, l'exercice extraordinaire qui consiste à réécrire le même éditorial depuis 20 ans avec des variantes. Et c'est, j'admire, hein, vraiment. Par exemple, les islamo-gauchistes sont des collabos, mais collabos est écrit avec un K. Et donc, évidemment, l'allusion est complète, c'est pour ceux qui n'avaient pas compris. Mais j'observe que le point Godwin, la Godwin, existe également à gauche. Hein. Il ne faut pas croire qu'il soit le monopole de la droite ou de l'ultra-droite. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2007, il y a eu une grande polémique sur le projet de M. Hortefeux d'appliquer les tests ADN pour attester la filiation au moment du regroupement familial, etc. Et ça a déclenché une très, très vive polémique. Et là, tous les arguments à Dietlerum ont été utilisés, hein, parce qu'il y a de la génétique telle qu'elle a été utilisée par le nazisme, etc. Enfin, il y a eu une propagation de l'argument extrêmement... Et on a vu, aux surprises, Charles Pasqua, qui a fait une déclaration du genre « Mais nous autres gaullistes, nous n'avons pas la mémoire courte, nous nous souvenons très bien des années noires », c'est l'expression qu'il a utilisée, où le nazisme avait utilisé la génétique pour dominer les populations, etc. Donc Charles Pasqua, qui était quand même évidemment un homme se revendiquant tout à fait de la droite, revendiqué, hautement revendiqué. Mais il y avait aussi dans sa revendication l'idée de nous autres gaullistes, évidemment, une revendication identitaire d'un autre type. Godwin lui-même, donc ce juriste de Yale qui a lancé un peu malgré lui l'expression de la loi de Godwin, insiste beaucoup, il s'est exprimé à plusieurs reprises là-dessus, sur le fait que la reductio ad Hitlerum, tout ramener à Hitler, si évidemment ça se banalise, si ça devient procédé, eh bien finalement, ça fait qu'on ne sait plus quand on peut l'appliquer et quand on ne peut pas l'appliquer. Or, il y a tout de même des circonstances, des situations où la comparaison peut se justifier. Voilà la difficulté de cette... Alors, il y a quelques jours, à l'occasion de la panthéonisation de Joséphine Baker, je suis tombé sur un site Opinion internationale, Michel Taupe, c'est un journaliste à la plume agile, qui est invité régulièrement à France Info dans l'émission Les Informés, et qui explique ceci, la panthéonisation de Joséphine Baker envoie un message très fort. La France, avec et malgré son passé colonial, n'est pas un pays raciste. Bon, alors, c'est la thèse, hein. Il n'est pas permis de penser qu'il puisse y avoir du racisme en France. Et voilà un peu le. Je vous ai montré toutes les données précises, les testings, etc., qui montrent que malheureusement, nous avons un niveau de racisme en France, de discrimination en fonction des apparences raciales, etc., qui est exactement du même niveau que celui des pays voisins. Ou celui des États-Unis, c'est pas différent. Donc, la France n'est pas un pays raciste, c'est le message de la panthéonisation de Joséphine Baker, et la couleur de peau ni est l'obsession que de quelques illuminés d'extrême droite et à gauche, des racialistes wokistes, aujourd'hui bien plus nombreux parmi les élites, l'université et la jeunesse française. Vous voyez que les illuminés, ça c'est le jugement de folie, hein, dont je vous ai montré à quel point il était très aisément utilisé. Et puis là, il y a la dénonciation du wokisme. Si j'avais le temps, je parlerais de cette question, mais enfin... Joséphine Baker au Panthéon, c'est une gifle pour ces indigénistes qui veulent enfermer les Noirs et les Arabes dans leurs conditions de descendants d'esclaves et de victimes expiatoires de la société française. Jeunesse, et là il s'adresse à son adversaire, jeunesse française, noire et arabe, puisque c'est de vous dont nous parlons, dont ça c'est une faute de français d'hypercorrection, hein, c'est de vous que nous parlons normalement. Donc, c'est de vous que nous parlons. Prenez exemple sur Joséphine Baker et détournez-vous de ces influenceuses qui vous éloignent de vous-même. Ne suivez pas l'exemple de ces racistes déguisés en antiracistes. En définitive, que Joséphine Baker aurait démasqué comme la grande résistante, le fille avec les collabos de la période nazie. Donc là, on arrive au point Godwin, hein, tout à fait typique. Et après, on se demande, les personnes victimes de discrimination raciale, qu'est-ce qu'elles doivent faire, finalement? Elles ne peuvent pas protester, elles doivent suivre l'exemple de Joséphine Baker. Et ça consiste en quoi, concrètement, aujourd'hui, suivre l'exemple de Joséphine Baker? Il faut danser, il faut monter sur une scène de théâtre, ça consiste en quoi, concrètement, suivre l'enseignement de Joséphine Baker? S'il n'y a pas une Troisième Guerre mondiale, on fait quoi pour montrer qu'on est résistante, etc. Enfin, voilà, vous voyez bien que la tournure, c'est quand même triste, hein, de voir qu'un monument, un moment d'unité nationale, une très belle cérémonie, un tapis rouge déroulé du Luxembourg jusqu'au Panthéon en continu, c'est quand même extraordinaire, avec une mise en scène absolument prodigieuse. Ils sont encore en train de démonter le c'est pas fini, hein. Donc, que tout ça devienne, ça aboutisse à ça. Ça aboutisse à une division, finalement, à une opposition. Voilà. En gros, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de discrimination raciale, et les gens qui se plaignent sont pas dignes de la nation et sont des illuminés, etc. Et Joséphine Baker les aurait dénoncés comme elle l'a fait avec les collabos de la période nazie. Bon. Mais il existe aussi, après la réductio ad Hitlerum, la réductio ad Stalinem. Alors quelqu'un m'a dit, mais pourquoi pas Stalinum? Je ne sais pas, j'ai un sens des déclinaisons qui fait que je dis ad Stalinem et pas ad Stalinum. Bon, c'est comme ça, on ne se refait pas. Donc, elle est très très utilisée aussi, la réductio ad Stalinem, hein, dans les débats. Je cite quelques exemples. Marine Le Pen, Yvan Rioufol... Face au projet de répartition des migrants entre les membres de l'Union européenne, un plan soviétoïde. Il s'agissait de répartir les demandeurs d'asile en fonction de la population, en fonction du PIB par habitant, en fonction de l'inverse du taux de chômage. Enfin, c'était des choses assez rationnelles qui avaient été calculées par Eurostat, mais à partir du moment où... Voilà, c'est un plan soviétoïde. Quand il y a, alors, les démographes qui ne confortent pas vos vues sur la fécondité soi-disant galopante des immigrés, ce sont des Lysenko. Ça aussi, c'est une réduction ad Stalinem. Lysenko, c'est ce scientifique qui avait prétendu pouvoir transformer à volonté la biologie des plantes, n'est-ce pas, de façon à miser sur des gains de productivité absolument extraordinaires à la demande de Staline. Voilà, donc, les démographes sont comparables à des gens qui travaillent sur ordre au bénéfice du pouvoir, faussent délibérément leurs données. Enfin, c'est tout ça que veut dire Lysenko, et j'en parlerai tout à l'heure. Une action en justice contre les propos racistes, c'était à propos justement d'un des nombreux procès de Zemmour, c'est forcément un procès de Moscou. Et voilà. Et alors, j'ai trouvé, comme ça, au hasard de mes lectures, je lis tout, hein, c'est terrible, Elisabeth Lévy dans Causeur, qui réplique à Laurent Geoffrin dans Libération, qui avait essayé de faire un article essayant de ramasser un petit peu ce qu'il y avait de commun entre toute une série d'auteurs. Il avait dressé en quelque sorte des listes. Et elle lui réplique en disant, en le qualifiant de commissaire politique, qui dresse des listes de néo-réactionnaires. Et dans la même phrase, il y a procès de Moscou et il y a rafle. Et là, on a la combinaison de la réductio ad Hitlerum et de la réductio ad Stalinem. Bon, vous voyez le niveau du débat. Donc, il faut être, je pense, attentif à ces... Alors, l'INED, et moi, donc, en partie, nous sommes des Lysenko. Je vais quand même revenir sur cette question-là, parce que, évidemment, le problème, c'est, face à des procédés rhétoriques comme cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut renoncer à la démonstration? Est-ce que je dois renoncer à ce qui est la base de mon métier, qui est quand même d'établir les faits, et d'essayer de dire, écoutez, non, je ne suis pas un adepte du rhetoric turn, je ne pense pas que tout est rhétorique dans la vie, y compris la science. Je pense qu'il y a, à un certain moment, il faut pouvoir opposer les faits, le calcul, à des affirmations qui, en fait, relèvent de procédés rhétoriques. Alors, à plusieurs reprises, dans plusieurs interviews, dans Mélancolie française en 2010, vous voyez, l'affaire est ancienne déjà, mais c'est quelque chose qu'il a répété il y a 2 ans à peu près, ou il y a 1 an. Notre dynamisme démographique est d'origine immigrée. Je réponds là à ceux que j'appelle les Lysenko de l'INED, qui trafiquent tellement les chiffres qu'ils finissent par nous dire que l'apport de l'immigration, c'est 0,1%. Ça fait rire toute la France. Ils veulent tellement démontrer le contraire de ce que voient les gens qu'ils en arrivent à délirer. Alors, vous voyez tous les types d'arguments là-dedans. Vous avez le jugement de folie, déliré. Vous avez l'argument ad vocem populum, populi, enfin, la voix du peuple dit la vérité par définition. Vous avez l'argument de dérision, ça fait rire toute la France, etc. Vous avez l'accusation de fraude, hein, qui est quand même très, très forte. Alors, effectivement, si l'apport de l'immigration, la fécondité de la France, était seulement de 0,1%, ce serait dérisoire, puisque 0,1%, c'est un millième. 1%, c'est un centième, 0,1%, c'est un millième. Le problème, c'est que les démographes n'ont jamais rien dit de tel, et que, voilà un peu les... et puis donc, c'est à partir de ça qu'ils concluent que les démographes sont des Lysenko, donc la réduction ad stalinem. C'est l'art de Zemmour, ça. C'est l'art de pouvoir concentrer en quelques lignes 4 ou 5 hein, des procédés que nous avons énumérés. Et là, répondre à tous ces procédés un à un, hein, la loi de Brandolini, souvenez-vous, il faut faire un effort qui est 10 fois plus important pour réfuter ces choses-là. Alors je vais me livrer à cet effort. Vous allez vous ennuyer pendant un quart d'heure. Pas un quart d'heure, quelques minutes. Mais enfin, allez, allons-y. Donc, à l'origine, nous avions écrit, Gilles Pison et moi-même, un article qui avait un titre un peu provocateur. 2 enfants par femme dans la France de 2006, la faute aux immigrés, la faute, bon, parce que, il fallait, parce que tout de suite, dès qu'on explique que la France est à un niveau de fécondité relativement élevé, la question c'est, mais est-ce que ce ne serait pas à cause de l'immigration ? Cette question-là, on nous la pose depuis les années 80. Je me souviens que des sommités membres de notre conseil scientifique, dès le début des années 80, chaque fois qu'on parlait, qu'on donnait les chiffres, de tout, mais est-ce que ce ne serait pas dû aux immigrés par hasard ? Et donc, depuis les années 80, l'INED, c'est un exercice, vous savez, comme dans la danse, il y a des figures obligées, il y a des figures libres. Il y a une figure obligée de l'INED dans ses travaux depuis, ça ne fait pas 30 ans, hein, ça fait 40 ans. Depuis 40 ans, on essaie d'expliquer, de calculer quelle est la part de l'immigration dans le taux de fécondité de la France. Alors, en fait, on a montré que sans les immigrés, le taux de fécondité à l'époque hein, serait à 2 enfants par femme au lieu de 1,9. Et donc, les immigrés ajoutent 0,1 enfant au taux de fécondité national. 0,1 sur 1,9, c'est une augmentation de un peu plus de 5% et pas de 0,1%. On a donc admis un apport de la fécondité des immigrés à la fécondité nationale 53 fois plus élevé que ce que Zemmour nous a imputé. Bon, c'est un petit détail au passage. Mais d'où vient la confusion ? C'est qu'il n'a pas compris qu'il a confondu 0,1 enfant la différence entre 1,9 et 2, avec 0,1%. Voilà. Alors ça, c'est évidemment une erreur de débutant. Il a confondu la contribution à la natalité et la contribution à la fécondité. Ça, c'est déjà plus excusable. Alors, nous avons actualisé, l'INSEE a refait les chiffres. Depuis cette époque, depuis l'accusation de Lysenkis, on a refait 3-4 fois les calculs. Les chiffres varient un petit peu, mais enfin, c'est toujours le même ordre de grandeur. Et donc, la dernière édition, c'est en 2019. La France a la plus forte fécondité d'Europe, est-ce dû aux immigrés ? Là, on a pris un titre un peu plus soft. Et donc, nous sommes mis à 3, une personne de l'INSEE et une personne de l'INED, puis moi-même qui ne suis plus à l'INED maintenant, hein, je suis ici au Collège de France. Et voilà la figure qu'on a publiée. Vous avez en noir l'évolution du taux de fécondité depuis 2009, le nombre moyen d'enfants par femme, et vous voyez qu'il y a une baisse un peu continue depuis 2014, 1,99, 1,94, 1,91, 1,88. Vous avez en haut le taux de fécondité des immigrés, qui était de 2,77 en 2009 et qui lui aussi connaît une chute, d'ailleurs assez forte récemment, 2,72, 2,60. On n'a pas encore les chiffres consolidés de 2017 et 2018, hein, parce que ça fait partie des calculs assez complexes qu'il faut faire dans la consolidation. Ça n'est pas le compte-rendu que l'on publie dès le mois de janvier pour l'année précédente. Donc, un décalage entre le... Alors, si on prend l'année 2017, 2,6 enfants pour les immigrés, 1,77 pour les natives. C'est une différence qui n'est pas négligeable, c'est 50%, hein, les immigrés en moyenne, 50% d'enfants de plus que les natives. Voilà un peu l'ordre de grandeur. Et puis, les natives sont en dessous de la moyenne nationale. Alors, comment se fait-il que... Voilà, tout le problème, et c'est ça que nous allons voir ici, c'est que la moyenne nationale entre 2,60 et 1,77, c'est 1,88. C'est très proche de la moyenne des natifs, tout simplement parce que les immigrés ont un poids qui reste quand même très minoritaire parmi les femmes ayant donné lieu à des naissances au cours de l'année. Et si on essaie de regarder, vous voyez, on peut tracer le graphique comme ça, voilà, les immigrés, c'est 12% des mères de l'année, les natives, c'est 88%, donc vous voyez que la moyenne, évidemment, c'est une moyenne qui est pondérée entre les deux grandeurs et qui tient compte, bien sûr, de la des effectifs considérés. 0,11 enfants par femme de différence entre les natives et l'ensemble, c'est une différence de 6% et pas de 0,1%. Hein, on retrouve. On a beau refaire tous les calculs, voilà ce que. Mais l'argument de Zemmour, qui a été suivi par d'autres, consiste à dire mais les gens de l'INED ont torturé les chiffres. Ils cherchaient absolument à démontrer quelque chose, ils ont torturé les chiffres, etc. Non, on n'a rien torturé, on a fait quelque chose d'assez simple, c'est que le nombre moyen d'enfants par femme dans la population, c'est le nombre d'enfants des immigrés et le nombre d'enfants des natifs, mais multiplié par un coefficient qui est leur part dans la population des mères de l'année. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que... Et une autre vérité que j'ai déjà eu l'occasion de vous rappeler, c'est à quel point, quand on regarde cette fois non plus la fécondité du moment, la fécondité de l'année, qui est une synthèse assez particulière faite entre les naissances de toutes les générations, mais quand on regarde au final, quand les femmes ont achevé leur vie féconde, quand elles ont terminé d'avoir leurs enfants, ce qu'on appelle la descendance finale, qui évidemment réclame du temps, hein, il faut attendre que les femmes aient atteint... en gros 45 ans, pour pouvoir extrapoler correctement la fin de leur fécondité, eh bien, on s'aperçoit que d'une génération à l'autre, et donc les années ici représentent les années de naissance des femmes, mais non pas des enfants, hein, vous apercevez que d'une génération à l'autre, la fécondité des immigrés du Maghreb a formidablement reculé, à l'image de la fécondité du Maghreb, hein, puisqu'il y avait 7 enfants par femme en Algérie, au Maroc, dans les années 70, et qu'il y en a maintenant 2, quelque chose, ou 3 et quelques en Algérie, mais c'est la chute de la fécondité en Algérie, avec celle de l'Iran d'ailleurs, c'est le record mondial de vitesse dans la chute de la fécondité. Paradoxalement, au moment où ces sociétés se réislamisaient en quelque sorte. Mais à quoi c'est dû? C'est dû au fait que les études se sont prolongées, l'âge au mariage a été considérablement retardé, il était de 15-16 ans en moyenne dans les années 70, et il se rapproche de 30 maintenant pour les femmes. Donc une évolution aussi rapide, alors c'est parce que le mariage est devenu coûteux, c'est parce que le logement est difficile d'accès, etc. Enfin, il y a toutes sortes de conditions, et à partir du moment où on recule l'âge au mariage dans ces pays-là, comme il y a un contrôle de la sexualité avant le mariage, eh bien, ça a un effet direct sur la fécondité. Bon, peu importe cet aspect purement démographique, mais vous voyez que les différences qui existent entre de taux de fécondité entre les différentes composantes du pays en fonction des origines, ce n'est pas des écarts fixes. Or, un certain nombre d'amateurs vous font des projections démographiques qui consistent à à geler pour les décennies à venir les écarts qu'on observe actuellement entre les différentes catégories, selon qu'elles sont immigrées ou pas, nées au Maghreb ou nées en Europe, etc. Et du coup, quand on gèle des écarts en démographie, ben, c'est multiplicatif, on les creuse, et donc on fait l'inverse de ce qu'on observe ici dans la réalité, qui est une convergence très nette des comportements de fécondité. Et d'ailleurs, on sait qu'au bout d'une génération, eh bien, les enfants d'immigrés, les filles d'immigrés ont le même comportement de fécondité que les natifs. Bon, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Ça ne se raconte pas simplement en deux phrases. Dans les journaux, on publie très peu de graphiques. Moi, je n'arrive pas à placer des graphiques dans les journaux parce qu'ils ont leur propre infographie qui repose sur d'autres principes et qui souvent aboutissent parfois à rendre moins lisibles les choses que vous aviez dont la lisibilité, vous êtes habitué, vous, à la travailler depuis des décennies. Et voilà. Donc, c'est vrai que la communication de ce genre de démonstration, moi j'appelle ça une démonstration, et je pense qu'on ne peut la réfuter qu'avec de meilleures données, ou des données encore plus récentes, qui montreraient des retournements de tendance. On ne peut la réfuter qu'en montrant que les données seraient radicalement fausses, mais enfin, l'état civil français, il est quand même assez correct. L'enquête famille qui sert de base aussi, c'est 300 000 personnes interrogées à la faveur du recensement. C'est quand même, c'est pas un petit sondage des familles, c'est quelque chose d'extrêmement solide. Donc c'est vrai que là, je suis toulminien, beaucoup plus que perelmanien. C'est-à-dire que je considère que entre les données de départ et le claim, l'affirmation, la prétention que j'ai d'affirmer quelque chose, j'ai des modulateurs, j'ai des garants, c'est ce qu'explique Toulmin, j'ai des supports qui sont quand même extrêmement solides et qui reposent sur des institutions. Alors évidemment, vous pouvez toujours considérer que ces institutions sont manipulatrices par définition et que donc depuis les années 30, enfin depuis les années 50, il faut ajouter 25 ans pour une génération, elle s'obstine à manipuler les données pour etc. et que donc les séries chronologiques n'auraient pas de consistance. Il faut faire énormément d'hypothèses pour arriver à démontrer que dans tous les pays, dans toutes les organisations statistiques internationales, il y a un complot qui tendrait à occulter la réalité. On ne publie pas assez de statistiques, c'est vrai, mais s'imaginer qu'elles sont... voilà. Alors, j'en viens à un auteur qui mérite beaucoup plus d'attention que Zemmour, qui est d'une toute autre qualité. Je ne fais pas d'amalgame entre Finkielkraut et Zemmour. Je pense qu'il a des arguments, plus il sait les écrire, etc. Bon, j'avais été très intéressé par L'identité malheureuse en 2013, qui a été un grand best-seller, et qui commençait par un avant-propos intitulé étrangement « Le changement n'est plus ce qu'il était ». À quoi faisait-il référence ? Alors, il évoque le fait qu'il avait, jeune, participé à mai 68, et que ça, c'était un vrai changement. Le peuple était là, dans la rue, débattait, discutait, voulait du changement. Bon, après coup, il expliquera que ce n'était pas un changement désirable en tout. Enfin bon, en tout cas, au moins, on militait, on voulait le changement. Or, aujourd'hui, explique-t-il, on subit le changement. On subit un changement démographique sur lequel personne n'a délibéré, que personne n'a voulu. Voilà l'argument, le changement n'est plus ce qu'il était. Autrefois, le changement était voulu, aujourd'hui, il est subi. C'est toujours l'idée que ce qui est subi, c'est nécessairement moins mauvais que ce qui est voulu. Là, je renvoie à tout le travail de Ruth Amossi aussi sur ce qu'elle appelle les lieux communs. L'actif, c'est moins bien que le passif, par exemple. L'unité, c'est mieux que la multiplicité, etc. On a comme ça toute une série de lieux communs, de raisonnements de base qui peuvent changer d'une société à l'autre. Il y a des sociétés qui préfèrent la multiplicité à l'unité. L'Antiquité, par exemple, préférait l'unité, etc., etc. Donc, il y a des lieux, et là, quand le changement est subi, eh bien, il y a quelque chose de négatif. Et il donne comme exemple, Alain Finkielkraut donne comme exemple, le regroupement familial décidé de façon totalement inopportune, aveugle, inconséquente, dans les années 70, qui a changé la société sans débat. Voilà l'argument de l'avant-propos. Alors, il y a toujours cette idée, la faute à qui ? Parce que selon les auteurs, selon les mouvances, dans toute cette pensée ultra. Il y a, c'est la faute à Chirac, c'est lui qui a autorisé le regroupement familial lorsqu'il était Premier ministre. C'est la faute à Giscard, puisqu'il était président de la République à ce moment-là. C'est la faute au Conseil d'État, qui en 1978 a rendu la régistie, qui a considéré que la vie de famille était une liberté fondamentale. Bon, il y a des cibles qui peuvent varier, mais il y a tout un courant d'extrême droite qui, systématiquement, prend Jacques Chirac comme cible, comme étant responsable du regroupement familial et donc responsable de la catastrophe migratoire qui donc a été enclenchée à ce moment-là. C'est toujours l'idée, il y a quelqu'un qui a ouvert les vannes. Il y a un phénomène naturel, ils étaient tous là à la porte, ils attendaient de pouvoir entrer. Il y avait un barrage, il y avait qui retenait tout ce flux. Et puis il y a quelqu'un qui a ouvert les vannes, a pas mis le doigt sur la fissure. C'est toujours ce thème de la. Et ouvrir les vannes, c'est une expression qui est assez typique parce que c'est à la fois. Il y a quelque chose de mécanique, de naturel, etc. Et en même temps, il y a quand même une intervention humaine. Il y a à la fois de la nature et du complot. Il y a un mixte de nature et de complot. Et c'est ça qui fait le succès de ce genre de dénonciation. Alors, Finkielkraut, c'est ça, sous une forme soft, hein, sous une forme assez élégante, sous une forme. Enfin, le fond de l'argument, la structure de l'argument, c'est bien celui-là. Et là, le démographe qui a un petit peu le sens de l'histoire, il y a beaucoup de démographie historique et de très grande qualité, s'est dit, au fond, c'est vrai, les changements démographiques, il y en a eu beaucoup au cours de l'histoire, est-ce qu'ils ont été voulus? Et il y a tout le problème des conséquences de l'action. C'est dans les années 60 que les chercheurs américains ont distingué des effets voulus et non voulus, attendus et non attendus, désirables et non désirables. Et ces trois dichotomies qui ne se recoupent pas définissent toute une combinatoire des différents types de changements. Il y a des changements qui étaient voulus et qui sont à fois désirables et attendus, ça existe quand même. Il y a des changements totalement inattendus et qui peuvent avoir des effets positifs ou bien au contraire des effets négatifs. D'ailleurs, toute la combinatoire existe. Et là, le problème, c'est qu'on a eu beaucoup dans notre histoire de comportements, de politiques, d'orientation générale de la société qui ont abouti à des conséquences démographiques qu'on n'avait pas estimées. Par exemple, la France est le premier pays malthusien d'Europe, celui qui a réduit sa fécondité dès la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il y avait les secrets de la contraception, s'étaient répandus dans les campagnes, disait-on. Et donc le paysan français réduisait sa descendance. Et il la réduisait par des méthodes très simples, qui est la méthode du retrait, tout simplement. Il n'avait pas d'autre méthode que celle-là. Bon, elle marche en probabilité. Et en probabilité, elle a réduit la fécondité. Mais on sait aussi, même si c'est un peu difficile à mesurer, que les guerres à répétition de la Révolution et de l'Empire ont également joué un rôle très négatif sur la vitalité démographique de la France. Et le résultat, c'est que ce n'est pas nous qui avons peuplé le Nouveau Monde, c'est l'Angleterre et aussi accessoirement la Prusse, la Suède, etc., qui ont perdu, l'Irlande bien sûr, qui ont perdu un quart au moins de leur population avant la guerre de 14 pour aller peupler le Nouveau Monde, alors que nous reproduisions de justesse. Et on peut faire de l'histoire contrefactuelle et se dire si les paysans français n'avaient pas été malthusiens, si on n'avait pas eu la Révolution, si on n'avait pas eu les guerres de l'Empire, alors c'est nous qui aurions peuplé le Nouveau Monde, on aurait continué d'alimenter le Canada français alors qu'on a cessé de l'alimenter en 1760. Bon, voilà un peu les guerres mondiales ont abouti à faire appel à la main-d'œuvre étrangère pour assurer la reconstruction. Le baby-boom, c'est intéressant le baby-boom. Je vous avais dit la dernière fois, je crois, que 25% des naissances du baby-boom n'étaient pas désirées. Hein. C'est ce que les résultats qu'on obtient régulièrement quand on interroge les femmes du baby-boom. Donc, ça a été un surcroît de population inattendu. 200 000 naissances de plus en une seule année en 1946, et on est resté à ce niveau pendant 30 ans. C'est ça le baby-boom, dont l'explication n'est pas encore vraiment très sûre. Hein. Ça rajeunit la population, c'est formidable. Et 50 ans plus tard, ça l'a vieilli. C'est dommage, mais parce que le baby-boom était une parenthèse, certes une parenthèse de 30 ans, mais cette parenthèse s'est refermée. Et du coup, le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, eh bien, une fois que ces femmes ont terminé leur vie féconde, tout a une fin, n'est-ce pas ? Eh bien, ça vieillit. Donc c'est comme une ola qui remonte la pyramide des âges, et qui, à la fin, finit quand même, va finir par disparaître. Hein, vous en serez débarrassé un jour. Bon. Donc, et puis la progression de l'espérance de vie, qui est, on vous avait dit, la force, la puissance, 6 mois d'espérance de vie gagnée depuis les années 70, 3 ou 4 mois d'espérance de vie gagnée depuis les années 70, ça se tasse un peu en ce moment à cause du Covid, mais enfin, ça a créé tous ces effets sur l'équilibre des régimes de retraite. C'était inattendu. C'est le rapport... Il y a eu un rapport dans les années... fin des années 70 pour essayer de commencer à entrevoir les effets du baby-boom sur le vieillissement, mais il a fallu du temps pour en mesurer l'importance. Ça n'était pas voulu. En fait, nous passons notre temps à accueillir des surcroîts de population qui n'étaient pas voulus. Voilà, donc c'est une espèce de réponse démographique à l'idée que... Voilà. Et Raymond Boudon, qui est connu pour sa théorie de l'individualisme épistémologique, acceptait quelques rares exceptions à cette théorie, et notamment a cité le fait qu'en démographie, les effets de composition des comportements individuels peuvent donner des résultats inattendus. Voilà. C'est vraiment le cas en démographie, et là je reviens sur la question de savoir qui... il n'y a pas eu une décision personnelle et irraisonnée de tel ou tel président ou premier ministre. Les choses se sont faites autrement. Et quand le Conseil d'État, en 1978, déclare que le droit de vivre en famille est une liberté fondamentale, il y a une expression juridique que j'aime bien, que j'avais citée dans ma leçon inaugurale. Il dégage un principe. Le principe était là, on n'en mesurait pas l'importance. Les problèmes se posent et on dégage le principe en 1978. Et du coup, il va avoir des effets qui, effectivement, vont être importants. Alors, j'en viens maintenant à la question des super métaphores ou des mégaphores dans le discours sur les migrations. On en a déjà évoqué quelques-unes dans les cours précédents, mais en gros, vous avez d'abord tous les modèles naturalistes ou physicalistes qui consistent à dire que les flux migratoires, c'est un peu la mécanique des fluides, que c'est la gravitation universelle, que c'est une espèce de retour assez normal à l'équilibre. Et vous avez aussi la métaphore organique qui interfère avec tout ça. Vous avez des modèles de confrontation et dans un très grand nombre de discours, d'analyse, de théorie, etc. Il y a toujours l'analogie avec la guerre, avec le jeu, le marché, le théâtre, le tribunal, le contrat. Je vais en parler. Il y a aussi tous les modèles de sélection dans un monde fini. C'est la théorie du bien limité. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé de cette théorie qui... Tout le monde ne peut pas tout avoir. On ne peut pas souhaiter la bonne année à tout le monde. Enfin bon. Et là, on a toute une série d'exemples. Le fameux banquet malthusien. Il n'y a pas assez de couverts pour tout le monde. La barque pleine est très utilisée par les écologistes qui insistent sur la finitude du monde naturel. Le partage du gâteau, les populations de trop, toute la question des capacités d'accueil. Il y aurait des capacités d'accueil que l'on pourrait, qui seraient finies, dont on pourrait mesurer l'importance et dont on pourrait dire qu'aujourd'hui, elles sont saturées. Ça, c'est dans une vision non dynamique de la société. Les capacités d'accueil, c'est quelque chose de fixe et de prédéterminé. Je pense qu'il faut distinguer deux types de capacités d'accueil. Les capacités d'accueil structurelles. Un grand pays a plus de capacités d'accueil qu'un petit pays par la population. Un pays riche a également plus de moyens qu'un pays pauvre. Et puis, des politiques. Des politiques qui, à population égale, à richesse égale, peuvent varier considérablement et qui, elles, définissent des capacités d'accueil d'un autre type. Et celles-là, elles ne sont pas mesurables scientifiquement. C'est quelque chose de politique. Voilà. Alors, les métaphores aquatiques, on en a déjà parlé dans notre séminaire, flux, afflux, submersion, tsunami, l'idée qu'il y a un écoulement du trop-plein. Il y a des variantes aériennes. Les hautes pressions vont fatalement aller vers les basses pressions, etc. Et j'avais montré dans le premier cours qu'en réalité, la structure, la logique globale des migrations ne suit pas du tout ces courants-là. Donc, je vous renvoie à Marc Bernardo, qui était venu à notre séminaire, qui a écrit un article, « Petit traité de navigation dans la langue migratoire », qui fait un peu l'inventaire de toutes les figures aquatiques ou liquides à appliquer aux migrations. Il y a un article qu'il cite, un article britannique très intéressant aussi, sur l'idée que les sociétés, c'est des réservoirs qui ont des trous, il y a des robinets qui remplissent, il y a des bondes qui se vident, il y a une jauge, il y a un équilibre, etc. Et tout ça joue un grand rôle, notamment dans les campagnes électorales, comme le montre cet article tout à fait intéressant. Les mégaphores, parlons-en. Il y a l'idée que la société, c'est d'abord un marché. Alors, ça paraît une idée très récente. On a envie de faire remonter ça à Adam Smith ou de faire remonter ça à Bourdieu, qui a utilisé la métaphore du marché en permanence, en parlant de capital, de bénéfices, de profits, etc., etc., et en disant, mais moi, je parle d'une économie générale des pratiques, je ne fais pas d'économisme. Mais enfin, son économie générale des pratiques exploite les résonances, les harmoniques des notions économiques correspondantes. Et donc, c'est assez difficile de pouvoir dire en quoi il n'utilise pas la métaphore du marché. Il faut se rappeler que dès l'Antiquité, la métaphore du marché est utilisée. Quand on interroge Pythagore, nous raconte Diogène Laërce, pour lui demander « qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ?» Il dit « le philosophe, c'est l'homme qui va au marché, qui observe le marché, mais qui n'achète ni ne vend. » Donc, il y a l'idée que la vie sociale, le monde à observer, c'est un marché, mais il y a déjà le désintérêt, le spectateur impartial, comme disait Adam Smith, qui, lui, n'achète ni ne vend. Voilà. Mais bien sûr, vous lisez La Rochefoucauld, vous lisez Nietzsche, et là, c'est la grande découverte dont Hirschman a parlé dans Les passions, les intérêts. On découvre que tout est intéressé, que l'intérêt mène le monde. C'est la phrase du XVIIe siècle, le duc de La Rochefoucauld. L'intérêt mène le monde. Et donc, derrière toute action, il y a un intérêt caché. Et on peut dire que la sociologie de Pierre Bourdieu, c'est essentiellement le dévoilement de l'intérêt caché. Y compris et surtout dans des pratiques qui pouvaient paraître désintéressées, comme l'art, la religion, la philosophie, etc., etc. Où là, dévoiler l'intérêt caché chez des gens qui s'affichent désintéressés, là, évidemment, c'est l'exploit suprême quand on est capable de faire ça. Mais donc voilà, l'idée, c'est quand tout finalement est une affaire de marché, y compris la religion, par exemple. Vous lisez les articles de Bourdieu sur la religion, tout est une affaire de marché, de bénéfice. Mais Max Weber utilisait déjà le procédé. La religion a le monopole de l'administration des biens de salut. Voilà une phrase à la Max Weber qui est typique. Et le problème, c'est, et là j'anticipe sur le religieux qui se trouve un peu plus loin, c'est que quand deux grandes mégaphores se croisent, comme le marché et le religieux, y a l'idée que parler du marché, parler du religieux, ça consiste quand même à dévaloriser un peu le comportement en question. C'est une rationalité, ça réduit à une rationalité d'un certain type, qui est la recherche de l'intérêt, ou qui est la croyance, l'illusion. Ça, c'est tout le... Voilà. Le jeu, bien sûr, est une très grande métaphore constamment utilisée. On ne peut pas, en économie, en sociologie, se passer de ces notions. L'acteur, on parle de l'acteur, on parle des rôles qui sont joués, etc. Si vous voulez essorer la sociologie et l'économie des métaphores du jeu, si vous voulez enlever le mot stratégie de la sociologie de Bourdieu, il ne reste rien. Enfin, je veux dire, vous le dépouillez d'un de ses principaux attraits. Et il y a eu une époque, dans les années 90, où à peu près un article sur trois en sciences sociales avait le mot « stratégie » dans son titre. Et c'était le cas en anthropologie, et c'était le cas en économie, mais aussi en sociologie. Tellement l'idée que du jeu, c'est pas comme explication, alors du jeu compétitif, et en même temps du jeu d'intérêt, puisque ces mégaphores, évidemment, communiquent. La guerre est une très grande métaphore constante. On ne peut pas... j'en parlerai tout à l'heure, le livre de Lakoff est tout à fait essentiel là-dessus. La guerre est une grande métaphore. On peut n'avoir jamais fait la guerre soi-même, mais en fait, on l'utilise constamment, y compris dans les discussions intellectuelles. On utilise constamment des références à la guerre, au combat, à l'occupation, etc. Et bien sûr, dans la question migratoire, vous avez sans cesse ces métaphores guerrières qui sont invoqués. Le théâtre, évidemment, c'est un rapport avec le jeu, mais enfin, ça, c'est une très, très vieille affaire. Hein. Vous savez que l'empereur Auguste, sur son lit de mort, a cette phrase fameuse « La comédie est finie, vous pouvez applaudir ». Et bien sûr, on a tout le théâtre de Shakespeare, le théâtre de Calderón de la Barca, le monde est une scène, etc. Et il y a un grand livre qui a fait l'histoire de cette grande métaphore du Theatrum Mundi, le monde comme théâtre, le monde comme scène, le monde comme jeu, etc. Là encore, une mégaphore. Le tribunal, bien avant Kafka, hein, bien sûr, l'idée que tout le parcours de l'individu, c'est comparaître. C'est le jugement. C'est le jugement dernier, mais anticipé dans la vie quotidienne, à travers toutes les instances. Le procès, Dieu lui-même est mis en procès, c'est la socio-odyssée. Hein. Et Goffman, Irving Goffman, le grand sociologue canadien, des interactions entre, dans la vie quotidienne, parle de la scène du jugement. Et la scène du jugement, c'est la combinaison de deux mégaphores, le théâtre et le tribunal. Voilà, j'ai déjà parlé du religieux. Il y a aussi toutes les images sur les ressources en quantité finie, la barque surchargée. Si vous admettez encore une population supplémentaire et l'immigration est ciblée, à ce moment-là, vous êtes généreux, mais en réalité, la barque va couler par surcharge. Et donc, du coup, vous obtenez le contraire de ce que vous voulez. C'est l'application typique de l'argument de l'effet pervers et en même temps de l'argument du bien limité. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a, et puis ça n'est pas fini, alors je donne une deuxième diapositive, mais la comparaison avec la famille, la société comme une grande famille, avec sa hiérarchie, avec son paternalisme, etc. La maison, évidemment, les sociétés sont des maisons, on est chez nous, et un des premiers qui avait actionné cette métaphore, c'était Jean-Louis Debré, à l'époque où il était encore député RPR et pas président du Conseil constitutionnel, qui était allé répétant que l'étranger sans gêne, qui s'invite chez vous, qui ouvre le frigo, qui dort dans votre lit, etc. C'était l'image de l'étranger, de l'intrusion de l'étranger, et que et c'était cela qui c'était par cette image. Il était tellement content de cette image qu'il la répétait partout dans plusieurs interviews. Bon, paix à son parcours militant, et il a pris la stature d'un président du Conseil constitutionnel depuis. Il y a l'hospice, l'asile, évidemment, la métaphore organique, la métaphore mécanique, la métaphore gravitaire, le contrat. On demande aux immigrés qui veulent entrer chez nous de signer un contrat d'intégration, contrat qui n'est pas vraiment bilatéral. Hein, c'est, et puis, il y a aussi tout le côté laboratoire, expérimentation, ça c'est assez intéressant. Si vous lisez le livre de Job, parce qu'on peut lire la rhétorique d'Aristote, mais c'est intéressant aussi de lire la Bible de temps en temps. Et le livre de Job, c'est une expérimentation. C'est un complot entre Dieu et Satan. Dieu et Satan décident d'éprouver Job, qui n'est pas juif d'ailleurs, je crois qu'il est ismaélite ou des choses comme ça, et, enfin, d'une tribu voisine. Et il décide de le soumettre à des épreuves, et ces épreuves vont être graduelles. On va d'abord s'en prendre à ses biens. Et là, il résiste. Ça lui fait ni chaud ni froid de s'appauvrir brutalement sous l'effet des épreuves divines. Alors Satan, qui est encore plus vicieux que Dieu, dit « Écoute, maintenant, on va s'en prendre à ses proches. Voilà. » Et puis là, il commence à souffrir un peu, mais pas trop. On va s'en prendre à sa personne, on va l'accabler de maladies, etc. Donc il y a toute une gradation, un peu comme dans l'expérience de Milgram. Il y a une gradation des épreuves sur Job, c'est véritablement une expérimentation. C'est tout à fait étonnant. Et l'idée que la vie est une suite d'épreuves est une idée évidemment très importante. Vous connaissez peut-être la phrase de Maître Batifolle dans Le Sapeur Camembert. Ça ne se lit plus, mais il y a des générations ici qui ont dû lire Le Sapeur Camembert. La vie est un tissu de coups de poignard qu'il faut savoir boire goutte à goutte. C'est une triple métaphore. Bon, donc il y a des métaphores mixtes. La stratégie, c'est entre la guerre et le jeu. La foire, le pari, c'est entre le marché et le jeu, etc. Donc il y a comme ça toute une série de métaphores. Le forum, c'est entre l'agora et le marché. L'évaluation, entre le tribunal et le marché, bon, etc. Donc... Bon, on a le pari pascalien, combine le jeu et la religion. Enfin, on a comme ça des... Il est très, très difficile, en réalité, d'essayer d'objectiver les choses, d'essayer de réduire la complexité des choses sans avoir recours à ces mégaphores. Et ceci se fait aussi bien dans la littérature que dans l'analyse scientifique. Et le problème, c'est qu'a-t-on fait une fois qu'on a ramené un domaine sur un autre domaine? Est-ce qu'on a vraiment expliqué? Est-ce qu'on s'est contenté d'une semi-explication? Est-ce que c'est réellement scientifique? Est-ce qu'on peut s'en passer? Je pose la question. Il y a un très grand classique. Alors, il a été traduit en français aux éditions de Minuit. Metaphors we live by, les métaphores dont nous vivons. Enfin, et ça a été traduit en français par les métaphores dans la vie quotidienne. C'est un grand classique qui est extrêmement lu. Et c'est une théorie assez particulière, mais très bien exposée, que la métaphore est omniprésente. Elle est présente absolument dans tous les discours. Alors, en anglais, évidemment, avec toutes ces particules up, down, by, etc., les métaphores spatiales ont une importance beaucoup plus importante, enfin, ont une importance bien plus visible qu'en français. Le traducteur a eu parfois du mal à traduire le livre. Mais l'idée, c'est que la métaphore, ce n'est pas simplement un rapprochement rationnel entre deux réalités, ce n'est pas quelque chose qui est en quelque sorte directement suggéré par la réalité, c'est le résultat d'expériences vécues, ce sont des analogies qui sont faites à partir d'expériences vécues, mais dont ils disent bien qu'elles fournissent seulement des explications partielles. Elles permettent, dans la vie courante, de s'en tirer à bon compte. La métaphore est un expédient, en quelque sorte. Mais il récuse totalement le fait qu'il y aurait d'une part un sens propre et de l'autre un sens figuré. Il n'y a pas une vision objectiviste de la métaphore, pas plus qu'il y a une vision complètement subjectiviste qui serait la métaphore comme objet de passion, comme objet d'idées purement subjectives, etc. Ils ont l'idée qu'ils vont surmonter l'opposition entre objectivisme et subjectivisme en faisant de la métaphore une rationalité imaginative. Voilà la théorie de la métaphore. Bon, il existe de très nombreuses discussions sur la métaphore. Il y a des revues entières maintenant consacrées à la métaphore, hein, pas en français, mais en anglais. Et voilà. Donc, tout le problème, c'est de savoir est-ce que ces métaphores révèlent des liaisons structurelles ou est-ce qu'elles les créent ? La migration comme guerre, comme occupation, comme invasion, comme subversion, comme déversement naturel, etc. etc. Alors, ce sont des créations, évidemment, ce ne sont pas constats directs. L'idée que la migration rééquilibre les inégalités mondiales, par exemple, on a vu que ce n'est pas comme ça que ça se passe, effectivement. Et donc, je pense que la métaphore, et plus encore la mégaphore, n'explique pas, elle transplique, en quelque sorte. Elle projette, elle déplace. Mais sa valeur heuristique, sa valeur explicative, son pouvoir explicatif, me semble en réalité assez limité, que ce soit dans les sciences ou dans les discours ordinaires. Il est midi et j'ai terminé ma séance. Merci.